Les rendez-vous,
the meeting,
les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting,
les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous,
les sans les roues,
les.
C'est dans
les lents des roues.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio. Merhaba, les rendez-vous de l'Opera Studio.
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 Eh bien, chers amis, auditrices et auditeurs de la grande et fameuse radio RDL 68, bien le bonjour et bienvenue dans notre émission, la première émission des rendez-vous de l'Opéra Studio de notre saison 23-24. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Jean Mianet, ténor de son état, tout fraîchement arrivé dans les murs de l'Opéra Studio. Cher Jean, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet, la toute première question. Depuis quand fais-tu de la musique ?
Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 14 ans, mais pas par le chant, par la guitare électrique. Et moi, je viens d'une famille où le rock était très présent et assez peu la musique classique, ironiquement. Et j'ai démarré à l'école de musique de Rezé, à côté de Nantes, dans l'Ouest. Et au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus pris le micro dans les groupes que j'ai faits. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis un peu éloigné de la guitare. Et pour finir dans le lyrique aujourd'hui.
Eh ben très bien, eh bien c'est bien, c'est bien. On est bien content que tu aies pris cette orientation. Et donc d'abord guitariste dans un groupe de rock, et tu t'es rapproché du micro petit à petit. Et comment t'es-tu rapproché quand même du répertoire lyrique, parce que c'est quand même assez éloigné du répertoire que tu as commencé à explorer dans ta jeunesse.
Complètement. Ça a été un peu un hasard. Dans ce groupe que j'avais avec des amis, j'avais eu la volonté vraiment de travailler le chant. C'est quelque chose que j'aimais depuis tout petit dans tous les cas, mais j'avais jamais conscientisé que ça se travaillait. Et j'étais arrivé aux portes du conservatoire de Nantes. Donc le conservatoire, pour moi, qui était une institution un peu mythique, j'avais jamais été là-bas dans ce lieu. Et dans ma construction à l'époque, dans mon imaginaire, je pensais qu'il y avait que le classique au conservatoire. Donc j'ai toqué directement à la classe de chant lyrique qui était ici, et non pas à la classe de chant jazz qui aurait
qui existait,
à l'époque
et oui.
beaucoup plus correspondu à ce que je cherchais.
Ouais.
Et je suis tombé sur ma première prof de chant là-bas, Natacha, qui a très bien cerné mon profil. Et qui a très bien su me guider à travers la comédie musicale, d'abord West Side Story, pour un petit peu m'amener doucement vers du répertoire de plus en plus lyrique, mais quand même populaire à la base. Mm-hmm. On avait fait l'opéra de Katsu au départ, etc. Et puis quand j'ai découvert le lyrique, ça a été un univers énorme qui s'est ouvert à moi, d'autant plus parce que j'en avais jamais écouté auparavant. Du coup, de découvrir la flûte enchantée quand on a 17 ans à peu près, c'est juste fabuleux. D'avoir jamais entendu ça avant et de se rendre compte « Ah, mais je connais quelques airs déjà !»
Et oui, c'est là qu'on se rend voilà. compte qu'on connaît l'opéra, même si on pense qu'on ne connaît pas l'opéra. C'est
Exactement.
Ce qui est incroyable. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, ton premier cours de chant, comment s'est-il passé? Parce que tu es arrivé avec tes habitudes de rocker.
Exactement.
Ah bah oui.
Ouais. Je suis arrivé... Alors, avant le conservatoire de Nantes, j'avais pris un cours avec Cécile Gallois,
oui.
qui habite à Bouguenay, à côté de Rezé, que aujourd'hui je recroise sur scène.
Qui est une
mais...
artiste lyrique, voilà. C'est ça. Oui.
Et c'est des amis qui m'avaient conseillé cette prof de chant, cette chanteuse qui donne des cours de chant occasionnellement. Et je suis arrivé chez elle, j'avais tapé chant lyrique sur YouTube, donc j'étais tombé sur Les berceaux de forêt de Gérard Souzet. Du coup, j'avais jamais aussi tenu une partition à l'époque, donc j'avais tout appris d'oreille. Et quand je suis arrivé chez elle, je lui ai dit je chante ça, voilà. Comment est-ce qu'on travaille ? Et puis, puis j'avais pas du tout prévu de partition ni de matière. Heureusement, beaucoup de chanteurs lyriques ont quand même un stock de partitions chez eux, dont Les berceaux de forêt. Et donc ça a été une grosse découverte que d'utiliser son instrument dans, de cette manière, et en même temps quelque chose de très libérateur par rapport à ce que je faisais avant, qui était peut-être, dans mon point de vue à l'époque, en tout cas plus proche du texte, plus proche du mot, plus proche d'un sens un peu plus spirituel, peut-être dans mon ressenti à l'époque en tout cas. Mais ça appartenait surtout qu'à moi.
Oui, non, mais c'est un discours musical magnifique. Alors donc, tu as sauté directement du rock à la mélodie avec Fauré. Mm-hmm. Et puis ensuite, petit à petit, par la comédie musicale, tu es arrivé jusqu'au répertoire lyrique, c'est-à-dire le répertoire d'opéra.
Exactement. Finalement. Exactement. Ça s'est fait en peut-être une ou deux années où il y a eu vraiment une éducation musicale qui s'est faite avec ses professeurs au conservatoire. Par l'opéra de Katsu, par West Side Story qu'on avait fait, par qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Il y avait d'autres choses, les Notre-Dame de Paris, des
oui, c'est
choses,
ça, c'était un répertoire assez large, voilà. C'est bien. Et donc le solfège, tu t'es mis au solfège parce qu'il faut bien apprendre à lire.
Oui.
C'est parce que le solfège, attention messieurs dames, ce n'est pas un gros mot, c'est la façon de pouvoir lire la musique. Au contraire, ce sont des clés qui nous permettent d'ouvrir des univers musicaux. Donc s'il y a des jeunes qui écoutent, des jeunes qui veulent faire de la musique, qu'ils ne soient pas rebutés par le solfège, c'est comme apprendre à lire, il faut bien apprendre à lire pour lire les beaux poème. Eh bien, le solfège, c'est pareil. Je ferme ma petite parenthèse. Et donc, tu as fait du solfège, tu es toujours vivant, et ça t'a permis d'ouvrir justement ton univers musical.
Exactement. J'avais la chance, peut-être en arrivant au conservatoire, que le... Alors, on m'a dit très vite à l'entrée, le solfège va être obligatoire, donc comme beaucoup, ce mot fait vite un peu peur au départ, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est un peu mystique et... Et en fait, en arrivant dans les premiers cours, j'ai vite eu la chance de réaliser que c'était juste le fait de mettre des mots sur des choses qu'on entendait, en fait, et des appellations, de pouvoir traduire du papier en musique, et que c'est censé être une aide, et pas quelque chose d'embêtant, le solfège quand même.
C'est une façon de transmettre la musique. Voilà. C'est une façon de transmettre la musique. Beaucoup de partitions qui ont été malheureusement perdues, les musiques de ces partitions ont été perdues également. Mm-hmm. Donc c'est magnifique quand on y pense, une partition. Et donc cette méthode de notation de la musique. Mm-hmm. C'est certain. Alors, nous allons écouter le premier extrait que tu as choisi et qui nous rappelle un petit peu tes premières années de musicien quand tu étais encore à ta guitare électrique. Envoyons le premier extrait, cher Francis. Merci.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Nous venons d'entendre le célébrissime titre Another Brick in the Wall des Pink Floyd, choisi par notre invité, par mon invité Jean Mianet, mon invité de ce matin. Jean, pourquoi as-tu choisi cet extrait ?
C'est un des premiers morceaux que j'avais chanté, mais à l'école primaire avec notre professeur de musique, Yanis, qui nous avait fait chanter ça tous ensemble. Et puis après, ça a été un des premiers vinyles que j'ai acheté, l'album The Wall des Pink Floyd.
Ah, alors non, on revient à la source.
Exactement.
On revient à la source, c'est très mignon, merci. Alors revenons à ton actualité, revenons à ton état. Aujourd'hui, tu es ténor d'opéra. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un ténor, cette bête curieuse ?
Un ténor, c'est une voix aiguë d'homme. Comme son nom l'indique, un ténor, tenere du latin, c'est une tessiture qui va avoir comme objectif de tenir la tessiture. Du coup, c'est une voix qui souvent va avoir la mélodie principale, qui va être dans une tessiture. Le challenge que le ténor va avoir, c'est de tenir cette tessiture qui est très haute par rapport à sa voix parlée. Parce que quand je parle dans une voix qui est plus à la tessiture d'un baryton au niveau de la hauteur.
Est-ce que tu peux nous faire un son de ténor ? Vas-y,
oui,
tu n'as pas chauffé. C'était pas prévu, messieurs, dames, mais ça va être très bien. Francis va être heureux, il adore le live. Allez, fais-nous une petite...
Du coup, là, on est à peu près à une hauteur médium, haut médium de ténor.
Du matin, parce qu'il faut chauffer la voix, parce que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas chanter si on n'a pas chauffé sa voix.
Exactement.
Ouais.
Et donc, on va être en permanence sur ces notes aiguës. Donc, les ténors ont cette particularité d'avoir ces notes très, 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 très aiguës qui vont être ce qu'on va appeler, par exemple, le mythique contrut du ténor, qui est une note qui est assez peu présente dans le répertoire, mais quand même, et qui fait toujours un grand effet sur scène.
Oui, c'est toujours très impressionnant. De toute façon, les notes aiguës. Oui, oui, tout à fait. Et donc, tu as été formé au Conservatoire de Nantes. Après le Conservatoire de Nantes, où es-tu allé te perfectionner ?
Après le Conservatoire de Nantes, je suis parti pendant 2 années au Conservatoire de Lille.
Oui.
Pour rejoindre Françoise Semelaz, professeure de chant au conservatoire. En parallèle, j'ai fait aussi musicologie à l'Université de Lille pour continuer justement toute cette partie solfège, culture musicale, éducation, où je me suis dit, il y a quelque chose à creuser encore. Mmh. Du coup, j'ai pu me perfectionner en tout ce qui est musicologie, écriture, analyse, direction d'orchestre, direction de chœur et bien sûr chant.
Oui, la formation est très complète.
Exactement.
Bien sûr. Et donc, tu es venu à l'Opéra Studio. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Pourquoi as-tu souhaité intégrer la promotion de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin ?
Pour moi, l'Opéra Studio, c'est un cadre qui est proposé, qui nous permet à tous de nous élever les uns les autres, d'avoir pendant une année ou deux, du coup, ce lieu où on va être beaucoup sur scène, on va beaucoup travailler. On va beaucoup se poser de questions, on va peut-être trouver un peu de réponses et surtout beaucoup travailler, surtout beaucoup faire.
Oui, voir du répertoire et puis
dans l'actif.
Oui, c'est ça. C'est voilà. Ça, être vraiment dans le moteur. Mmh. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est exactement ça à l'Opéra Studio. Il y a des coachings, il y a beaucoup de productions dans lesquelles vous êtes impliqués. Vous avez des rôles dans la saison, hein. Je le rappelle pour nos auditrices et auditeurs. Et puis, vous participez à des récitals qu'on appelle les heures lyriques tout au long de la saison, qui sont donnés Colmar, Mulhouse, Strasbourg, vu que l'Opéra du Rhin est basé sur ces 3 villes. Et donc, l'Opéra Studio, lui, est basé à Colmar. Effectivement, il va y avoir beaucoup, un brassage de répertoire. Et ça, c'est vrai que ça fait grandir parce que ça fait se poser beaucoup de questions et forcément, on trouve pas mal de réponses. Donc, je te rassure, tu vas en trouver. Tu vas
super.
En trouver. Donc, ton quotidien, comment tu l'imagines à l'Opéra Studio ? On est rentré, notre rentrée date, enfin, on est rentré lundi. Donc, c'est très, ça fait 48 heures que tu es vraiment dans l'Opéra Studio. Qu'as-tu pensé de ces 2 premières journées et comment imagines-tu la suite ?
Du coup, ces 2 premiers jours, ça a été déjà la rencontre avec toute l'équipe. Donc déjà, ça permet de se projeter sur le reste de l'année et de se rendre compte que ça va être super d'être tous ensemble pendant toute l'année. qu'on va être tous ensemble pendant toute cette année. Et puis que, bah, comme je disais avant, je pense qu'il y a, vraiment ce... du reste de l'année, j'attends, entre guillemets, beaucoup de musique, beaucoup de scènes, avoir le temps de se poser des questions et avoir le temps de trouver quelques réponses et de s'élever tous ensemble les uns à côté des autres.
Donc, tu viens chercher de l'expérience, mais tu en as déjà de l'expérience. Par exemple, raconte-nous ce que tu as fait cet été, Jean.
Cet été, j'étais pour la quatrième année consécutive au Corrigé d'Orange pour la production de Carmen qu'on a fait, mis en scène par Jean-Louis Grinda. Du coup, production dans laquelle je chantais le rôle du Remendado et j'avais la chance aussi de faire la doublure de Jean-François Borras qui était notre Don José. Et qui était absent pendant une semaine.
Oh, donc tu as dû
dont
chanter.
Dont la générale piano, oh. Du coup.
Ah, c'est bien, très belle expérience.
Ah oui, c'était incroyable. Où j'ai eu la chance de chanter pendant une semaine Don José aux côtés de Marie-Nicole Lemieux en Carmen, de Hildebrando d'Arcangelo en Escamillo, Alexandra Marcelier en Michaela. Et puis surtout cette soirée un peu folle où à la générale piano, je me suis retrouvé à chanter Don José et Remendado.
Ah oui, c'est bien.
Et il y a des scènes très marrantes comme ça où du coup on se retrouve sur scène à attraper Carmen dans un excès de violence par le personnage de Don José et puis à courir de l'autre côté pour chanter les répliques du Remendado qui comprend pas trop ce qui se passe à ce moment-là.
Ah oui, c'est amusant.
Voilà.
C'est amusant en effet de faire deux rôles. Bah oui, finalement deux rôles, pourquoi pas. Donc pour donner une toute petite explication, une générale piano, en fait, c'est le filage, c'est on donne l'opéra en entier. Mais accompagné au piano, l'orchestre n'est pas encore arrivé. C'est la dernière répétition qui est vraiment consacrée à la mise en scène. Voilà, le metteur en scène peut faire ses derniers réglages s'il veut donner quelques indications supplémentaires aux artistes qui sont sur le plateau, aux artistes du chœur, aux artistes de complément, aux artistes solistes. Et ensuite, après cette générale piano, arriveront les répétitions avec l'orchestre, ce qu'on appelle les scéniques orchestres. Et ensuite, il y a la générale, la générale orchestre, mais ça, on dit générale. Et ensuite, ce sont les spectacles. Voilà, donc c'était quand même un moment du processus de répétition très avancé dans la mise en scène. Donc, quand tu as dû faire deux rôles.
Oui.
Bravo, félicitations. Ça va peut-être donner des idées à des metteurs en scène, mais c'est compliqué quand même. Il vaut mieux une personne par rôle, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier à chanter dans un lieu tel que les Corrigés d'Orange, parce qu'on chante devant le mur des Corrigés d'Orange. Uh-huh. C'est un théâtre antique. Il y a, je ne sais pas combien, 5000 places.
10 000.
Ah voilà, 10 000, carrément. donc, ça doit être légèrement impressionnant.
C'est le jour de la première, je me souviens, on était en coulisses. Je n'étais pas encore rentré sur scène. Et il y a quelqu'un qui sortait de scène et qui me dit... vous allez voir, en rentrant sur scène, c'était plein, rempli. La marée de visages qu'on se prend.
Oui.
Et je suis arrivé sur scène avec mon Remendado, avec le quintet, enfin le début du Remendado. En plus, c'est le quintet de Carmen, qui est un quintet très connu pour sa difficulté de réalisation. Et on arrive sur scène et là, je vois les 10 000 visages en face de nous. Et vraiment, c'est un 180 degrés sur ça où il y en a partout.
Oui.
Il y en a partout. Du coup, déjà, ça, c'est la chose très impressionnante dans ce lieu, c'est la taille qu'on réalise vraiment le jour où c'est rempli. En parallèle de ça, il y a la partie, je suis très touché par les choses qui ont de l'histoire. Du coup, c'est un théâtre qui est un des mieux préservés d'Europe, qui a été construit, je crois, 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste, je crois, à l'époque. Et du coup, c'est un théâtre qui en a vécu des choses.
Ah, bah, qui en a vu, qui en a entendu.
Qui a eu différentes fonctions à différentes époques. Et aujourd'hui, de se dire que dans ce théâtre, il y a eu tellement de chanteurs et chanteuses d'une qualité incroyable qui sont venus chanter dans ces lieux, c'est très touchant. il y a quelque chose de très émotionnel qui se dégage
oui,
de ça.
Oui, oui, c'est riche. On sent des vibrations. Enfin, c'est vrai, quand on arrive dans ce lieu, il se passe quelque chose. Oui, c'est un petit peu comme quand on rentre dans une église ou enfin dans un lieu chargé comme ça. C'est vrai. Des lieux historiques ou des châteaux, par exemple. Mm-hmm. Oui.
C'est marrant que vous parliez d'église parce qu'il y a, quand on est sur scène, il y a quelque chose que le public ne voit pas, mais que nous, on voit. C'est tout en haut, sur la montagne, en face du théâtre antique, il y a une Vierge Marie en statue qui surplombe toute la scène, mais que le public ne voit pas. Mm-hmm. Et souvent, entre chanteurs, là, il y a un peu cette tradition de chanter sous le regard de cette Vierge Marie qui est là-haut et qui regarde un peu tout ce plateau en même temps que le public.
Ah, c'est très très beau. Ah, je savais pas, c'est une très belle anecdote. Merci Jean. Et nous allons continuer avec un deuxième extrait. Alors cette fois, c'est un ténor qui chante et qui chante un air très très célèbre qui commence par « Pourquoi me réveiller ?». C'est un extrait de Werther, de Jules Massenet, et c'est Monsieur Roberto Alagna qui chante. Le magnifique ténor Roberto Alagna, dirigé par Richard Armstrong, qui dirigeait lui-même le London Philharmonic Orchestra dans cet extrait de Werther de Massenet, Pourquoi me réveiller? Un très, très, très bel air de ténor, car je reçois aujourd'hui Jean Mianet, ténor à l'Opéra Studio pour cette saison 23-24, qui nous raconte pourquoi et comment il est arrivé jusqu'à nous à l'Opéra Studio d'Opéra du Rhin. Donc, le travail d'un musicien et d'un chanteur, on l'a compris, ça représente beaucoup d'heures, d'investissement. Mais de temps en temps, on arrête de travailler et on se détend. Et que fais-tu pour te détendre?
Alors, je suis un peu un cliché du chanteur sur ça, où je fais beaucoup de yoga, beaucoup de sport, natation, beaucoup de randonnée, beaucoup de méditation, prendre le temps de lire. Si j'ai plus le temps de lire, c'est qu'il y a un problème. d'aller voir des choses aussi, de rester actif dans le monde extérieur aussi de l'opéra. Je trouve ça important de se nourrir de tout ce qui existe autour de nous.
Mais oui, c'est très bien. C'est un très beau programme. Et donc, pour être chanteur d'opéra, certaines qualités sont requises. Et quelles sont pour toi les qualités qu'il faut avoir et qui facilitent, en tout cas, ce chemin vers l'art lyrique et vers la voix?
J'aurais envie de dire, je pense, beaucoup de curiosité, de s'ouvrir à beaucoup de choses, au monde de l'opéra, au monde de la mélodie, au monde du lead, à la musique contemporaine, à la musique plus ancienne, à la musique populaire, la musique moins populaire. Beaucoup de patience, parce que c'est un processus long. C'est aussi des muscles, des cartilages. Faut que ça s'étire, faut que ça se muscle. Donc ça prend du temps. Et puis principalement de la passion.
Et oui.
Je pense que c'est le premier point de base aussi. Si,
oui, c'est ça. S'il n'y a plus la passion. Évidemment. Et donc, tu as déjà interprété nombre de rôles dans des très belles maisons et de très beaux endroits, comme les Corégies d'Orange, comme tu m'as expliqué tout à l'heure. Mais y a-t-il des rôles que tu n'as pas encore chantés et que tu aimerais aborder et par la suite même chanter sur les scènes du monde entier?
Oui. Particulièrement dans les prochaines années, j'ai commencé à construire un peu un nouveau répertoire pour les 15 prochaines années, à peu près en ce moment particulièrement. Du coup, que ce soit dans la Traviata avec Alfredo, que ce soit d'aborder doucement aujourd'hui Rodolfo dans la Bohème, Roméo dans Roméo et Juliette, le Chevalier des Grieux, beaucoup plus tard après Werther, Faust, Hoffmann, des choses... Oui, romantique quand même.
Oh ben c'est beau, le rôle voilà. De Hoffmann, magnifique. Moi j'aimerais, si j'étais ténor, je serais comme toi, j'aimerais voilà. Bien chanter Hoffmann. C'est un très 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 beau rôle. Et donc, parmi les expériences de scène que tu as eues, donc c'est beaucoup de travail, mais est-ce que de temps en temps on s'amuse? Est-ce que de temps en temps des choses rigolotes arrivent pendant les répétitions ou pire, ou mieux, je ne sais pas, pendant les spectacles? Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter?
Oui, on a toujours pas mal d'anecdotes qui peuvent être marrantes. Une anecdote, je pense, la plus ridicule qui a pu m'arriver, c'était, je sais plus dans quelle maison d'opéra, mais on faisait avec Opéra Éclaté, en tournée, Pagliacci et Cavalleria Rusticana. Et je faisais le rôle de Beppe dans cette production. Et Beppe, donc c'est un personnage, un troubadour qui arrive et j'entrais sur scène, je faisais un salto, une roue déjà.
Ah oui, enfin, je pense, parce qu'en plus tu es gymnaste, bravo, bah oui, un double salto, mais oui, bien
exactement.
Sûr.
Exactement. Je jonglais, etc., tout en chantant mon air et tout ça, donc c'était un super moment, c'était un moment de légèreté et vraiment de fun au milieu d'un opéra dramatique et tragique. Et c'est le fonctionnement de cette troupe à ce moment-là, c'était que on avait construit l'opéra et puis on se revoyait des fois 3 mois après et puis on se retrouvait la veille ou le matin même pour jouer le soir. Donc c'était super au niveau de l'expérience, mais il arrivait qu'à des moments, il y a des petits oublis. Et en l'occurrence, mon personnage devait se changer sur scène pour juste avant de rentrer pour faire cette roue. Et je me changeais du coup derrière un paravent dans la pénombre et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. J'étais habillé avec un collant et un pantalon, etc. Or ce jour-là, j'ai complètement oublié le pantalon.
Ah mais bien sûr.
Le collant m'a suffi à ce moment. Et je suis rentré sur scène en faisant une roue et sans pantalon donc et j'ai trouvé génial parce que je me suis dit ah c'est super les gens rigolent et c'est
Ça marche bien ce soir.
Ça marche vachement bien ce soir, quand même. Puis en sortant de scène, j'ai vu les yeux de l'habilleuse qui me disait « Mais il est où ton pantalon ?» Et voilà.
Ah, ça c'est drôle. Donc oui, ce sont les tournées opéra éclatées.
Exactement.
Je salue d'ailleurs Monsieur Olivier Desbordes. Et je pense que la mise en scène était signée Eric Pérez, je pense,
exactement,
de cette production.
Exactement.
Donc ils sont de vieux compagnons de route. Oui. J'ai fait moi-même des productions avec eux. On avait fait une série de petites noces de Figaro.
Génial.
Et je sais que effectivement on va jouer dans des endroits incroyables. Par exemple, nous un jour on a joué sur une remorque, je sais pas comment on peut appeler ça, ou en bois. sur laquelle, je pense, on mettait plutôt des ballots de paille au départ. Et donc, la remorque, elle était assez grande quand même. On avait posé un piano quart de queue dessus, parce qu'attention, piano quart de queue. Oui, oui, oui. Sauf qu'un piano quart de queue, c'est lourd. Donc, la remorque, elle penchait un petit peu d'un côté, mais bon, ça allait quand même. Et on était installés dans un parking, sur un parking, avec du gravier. Et derrière nous, il y avait un champ avec des vaches. Et quand on a commencé à jouer, les vaches se sont rapprochées et le public était là devant nous. Et c'est un moment mais incroyable. Et là, c'est vrai. On arrive à l'après-midi, on regarde où sont les loges. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, allez, on va faire les entrées et les sorties. Et donc, il y a moins d'escaliers, moins de choses que d'habitude. Eh bien, les solistes, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment vous faites. Ils ont vu ça en un quart d'heure. Ils ont dit, bon, alors là, je rentre par là, je sors par là, je fais ci, je fais ça. Allez, hop, c'est bon. Et voilà. Et on a joué sur cette remorque. Avec quatre autres musiciens, donc on était cinq dans l'orchestre, si on peut dire. C'était un orchestre de chambre. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Parce que, voilà. Et c'est très formateur, d'ailleurs. Ces compagnies comme ça, itinérantes, qui font un maillage, quoi. Et qui vont, à la rencontre de publics qui, jamais de leur vie, ne seraient venus voir les Noces de Figaro ou bien, le spectacle que vous avez donné, vous, Caveria Payas. C'est vraiment, voilà, je salue mon ami Olivier Desbordes et ainsi que mon ami Éric Pérez. On arrive au terme de notre émission. Je voudrais juste que tu nous renseignes sur tes prochains projets professionnels, que ce soit à l'Opéra Studio ou même si tu en as à l'extérieur. Je serais curieuse de l'apprendre.
Alors, pendant la saison 2023-2024, dans le cadre de l'Opéra Studio, je vais pouvoir interpréter en fin d'année le rôle de Flavio dans Norma de Bellini, que j'avais eu l'occasion de faire l'année passée à l'Opéra de Lausanne, d'ailleurs, aussi. Et aussi, au mois de février-mars, le rôle de Matt dans Les Fantastiques de Harvey Schmidt. Dans une traduction, donc c'est une comédie musicale et qui va être traduite en français pour l'occasion en partenariat avec la comédie de Mulhouse.
C'est-à-dire que non, c'est notre directeur Alain Perroux qui fait la traduction du livret et des lyrics, comment on dit, c'est-à-dire de la musique, des airs. Et donc nous, cette production sera la production Opéra Volant. De la saison 23-24. Et donc, c'est une célèbre comédie musicale qui a été en son temps 42 ans à l'affiche dans le même théâtre à New York. Elle a été créée en 1960 à New York et c'est une comédie très drôle, très fine, très amusante qui est basée sur les romanesques d'Edmond Rostand. Et donc c'est une comédie très fraîche de deux amoureux, enfin d'amour soi-disant impossible, c'est une fausse comédie de Roméo et Juliette, oui. Enfin voilà, c'est très amusant, donc beaucoup de dates sont à l'affiche, on va se promener dans le Grand Est, mais aussi ça va être donné à Colmar, effectivement, ça va être donné à la Comédie de Colmar, ça va être donné à Strasbourg au Théâtre d'Haute-Pierre, à Mulhouse au Théâtre de la Cine, ainsi qu'au à Sainte-Marie-aux-Mines, à Arena, enfin bref, dans de nombreux lieux de la région. Vous serez accompagnés des chanteurs par les pianistes de l'Opéra Studio, qui sont tout fraîchement arrivés, enfin l'une est arrivée cette année et notre pianiste chef de chant qui est Hugo Mathieu était déjà là la saison dernière, donc nous le connaissons déjà. Et donc cette comédie va avoir lieu dans différents lieux du Grand Est, donc avec piano et harpe, excusez-moi. Donc nous aurons un harpiste de la IR de Strasbourg qui sera avec nous dans ce périple qui nous suivra. Voilà, merci beaucoup Jean pour ce moment très agréable passé en ta compagnie. On a appris beaucoup de choses, on aurait pu parler bien plus longtemps encore, peut-être
toujours.
On fera une autre émission, qui sait. Et je voudrais vous faire partager le tube de chez Tube de cette comédie des fantastiques qui s'appelle Try to Remember. Et en fait, tout le monde connaît ça. Je vous dis au revoir. On se quitte sur la pointe des pieds avec cet extrait des Fantastiques de Harvey Schmidt.
September, when life was slow and oh so mellow, try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a tender and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow. December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember, without a hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember the fire of September that made us mellow. Deep in December, our hearts should remember and follow.
Follow.